À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de Louis Massignon. C'est un nom très connu dans certains milieux, car ce laïc qui est devenu prêtre à la fin de ses jours, il est devenu prêtre grec melkite. Nous avons des melkites à Montréal, n'est-ce pas, la paroisse Saint-Sauveur. Ils ont aussi un grand centre important sur le boulevard de l'Acadie. Ce sont des Arabes, en général catholiques, qui viennent du Liban, les melkites. Ils sont de rite byzantin, de rite oriental, très attachés à l'Église catholique. Ils ont des ordres religieux. Et lui, il est devenu prêtre dans cette Église catholique, puisqu'il est né catholique. Mais c'est un homme qui s'est intéressé énormément à l'islam. Et en fait, il doit sa conversion, croit-il, à l'islam. C'est assez curieux. On a publié de Louis Massignon, L'hospitalité sacrée, avec une préface du fameux père René Voyaume, hein, celui qui a établi, qui a fondé, en somme, les petits frères de Jésus, dont la règle avait été écrite par Charles de Foucault, père René Voyaume. Vous l'avez déjà entendu sur les ondes de Radio Île-Marie, d'ailleurs. Et ce sont des textes inédits qui sont présentés par Jacques Kériel. C'est paru chez Nouvelle Cité il y a un peu plus de 10 ans. C'est un très beau livre que je vous recommande, L'hospitalité sacrée de Louis Massignon. C'est l'anniversaire de sa mort le 31 octobre. Il est mort le 31 octobre 1962. Et cette correspondance qui forme le cœur de ce livre, L'hospitalité sacrée, elle peut se comparer à celle de Saint François de Sales, de Sainte Jeanne de Chantal. Louis Massignon et Marie Cahill ont été en effet à l'origine de toutes sortes d'initiatives dans l'Église. Et puis l'ouverture du Concile Vatican II sur l'Orient, puis les grandes religions, notamment l'islam, leur doit beaucoup à Louis Massignon. Même le renouveau liturgique aussi. Louis Massignon, d'accord, c'est un islamologue, donc un spécialiste de l'islam, puis il est connu. Mais en revanche, Marie Cahill, dont j'aurai pas le temps malheureusement de vous parler, est restée dans l'ombre, hein, et c'est pourtant un personnage de premier plan, tant dans son pays, l'Égypte, jour je vous parlerai d'elle d'ailleurs, qu'au niveau de l'Église aussi. Alors, il y a 15 ans, cette année, l'UNESCO a célébré solennellement le centenaire de la naissance de Louis Massignon. L'UNESCO, oui. En 1983. Parce que Louis Massignon est né, en effet, le 25 juillet 1883, à Nogent-sur-Marne, en France. C'est à l'est, là, du bois de Vincennes. Son père était sculpteur, graveur et aussi peintre. C'est un agnostique. Son père, il fréquente les artistes de l'époque, et tout particulièrement les impressionnistes, les fameux peintres impressionnistes. Passons, et Louis Massignon, lui, fait ses études au lycée, fameux lycée Louis-le-Grand, à Paris, où il se lie d'amitié avec un condisciple, Henri Maspero. Et très tôt, ces deux jeunes adolescents se passionnent pour l'Orient. En 1901, donc 18 ans, quoi, à Ligugé, le premier monastère bénédictin en France. Le premier monastère en France qui est devenu bénédictin, puisque les bénédictins ont été fondés à peu près 200 ans après la fondation de ce monastère qui existe toujours près de Poitiers. C'est tout près de Poitiers. On peut s'y rendre à pied de Poitiers. Ligugé. Vous entendez souvent les moines de Ligugé chanter sur les ondes de Radio Ville-Marie. Alors, en 1901, donc, à Ligugé, il rencontre un ami de son père, Huysmans, Joris Karl Huysmans, le fameux écrivain. S'est converti aussi, je vous en ai parlé, qui va exercer sur sa vie une influence très profonde. En 1901, aussi la même année, il fait son premier voyage à Alger. Bon, il pénètre le monde musulman. Après une adolescence fervente, auprès de sa mère, qui est très croyante, mais assez possessive, ben Louis Massignon abandonne toute pratique religieuse à 20 ans. Il se déclare agnostique, c'est-à-dire qu'il ne sait plus trop si Dieu existe ou s'il n'existe pas. Et quant à l'Église, bien, ça ne l'intéresse plus. En 1902, il est licencié S-Lettres déjà. Incroyable, ça va vite, hein? Il n'y a même pas 20 ans. Et pour préparer son diplôme d'études supérieures, il a choisi comme sujet un tableau géographique du Maroc. au 16e siècle. Et pour ce travail, bien, il se rend au Maroc en 1904, à 21 ans, en compagnie d'un ami, Pierre Sainte, qui aura beaucoup d'influence sur lui. Puis en avril 1904, donc cette année-là, il écrit « Ma grande randonnée à cheval au Maroc jusqu'à Fès, pleine énergie physique, un certain équilibre intellectuel, et écoutez bien, un agnosticisme inconscient, malheureusement, et qui ne devait être guéri, mis à nu, cautérisé, qu'en Mésopotamie en 1908. Vous verrez ce qui va lui arriver, c'est extraordinaire. Et c'est durant ce voyage d'études que, trahi par un interprète arabe et attaqué, il se jure d'apprendre l'arabe, qui l'intéresse d'ailleurs beaucoup. Et tout en suivant les cours à l'École pratique des hautes études, il étudie l'arabe à l'École nationale des langues orientales. Et donc, en février 1906, 2 ans plus tard, il obtient son diplôme d'arabe classique et d'arabe dialectal. Il a 22 ans. Alors, orienté désormais vers le monde arabe, on le retrouve en 1906 au Caire, en Égypte évidemment, où il devient membre temporaire de l'Institut d'archéologie orientale. Sa connaissance de l'arabe, ça l'oriente vers les écrivains, les poètes, les philosophes, les mystiques arabes, les mystiques arabes. Je vous en ai déjà parlé, des grands mystiques arabes. Hein? Al-Hallaj, qui sera son préféré, et Rumi. J'ai fait 2 émissions là-dessus. Je vous prépare une émission sur le soufisme, d'ailleurs. Je ne veux pas vous convertir à l'islam. Je suis loin de me sentir musulman, mais j'apprécie ce qui est positif chez eux. Hein? Alors, ça l'attire aussi vers l'art abstrait de l'islam et aussi vers le peuple. Oui, le peuple musulman. Cette découverte d'une culture vivante l'intéresse beaucoup plus que les hiéroglyphes là en Égypte. Et c'est en lisant le Mémorial des Saints qu'il découvre un petit poème, un distique de Hussein Mansour al-Hallaj, dont je vous ai parlé le 27 mars cette année, 27 mars 1998. Si vous voulez commander l'émission, c'est le numéro 626. Je ne fais pas d'argent avec ça, hein. Ça ne me donne pas un sou. Je tiens à le répéter. Il y a des gens qui pensent que je fais du commerce, mais je n'en fais pas du tout. Je m'excuse. Hein. Alors, voici le texte de al-Hallaj. « Deux séries de prosternations suffisent en amour, mais l'ablution préalable doit être faite dans le sang. » Curieux, c'est presque surréaliste. Et dès ce jour, le 24 mars 1907, il décide de faire sa thèse de doctorat, S-lettres, sur al-Hallaj, justement, puis il y travaille méthodiquement. Revenu en France pour l'été 1907, Massignon se voit proposer une mission archéologique en Mésopotamie, à Bagdad, en Irak. Il demande donc, en juillet 1907, son détachement de l'Institut du Caire d'Égypte. Il arrive à Bagdad le 19 décembre, et puis Louis Massignon s'établit dans le vieux quartier musulman d'Aïd Kané, le 7 janvier 1908. Lui, on n'est pas sûr, voisin ou locataire, entre les cas, de la famille Aloussi Zadeh. Les Aloussi vont avoir une grande influence sur lui. Il s'est noué rapidement des liens étroits de toutes sortes avec les milieux lettrés de cette ville, de Bagdad. Et puis, pendant 2 mois et demi, il va travailler avec acharnement. Il cherche à mieux comprendre la mentalité du peuple, les coutumes, les croyances. Il se familiarise aussi avec la façon de vivre et de se nourrir. Et cette vie en costume arabe dans un quartier musulman surprend. Et parfois, ça choque les Européens. Mais il garde ses relations. Il sort tous les jours à cheval. Il aime beaucoup le cheval. Après avoir obtenu une escorte du wali de Bagdad, Louis Massignon part le 22 mars avec un sous-officier, 4 soldats et plusieurs domestiques. Puis il visite, en passant, le tombeau d'Ézéchiel, les ruines de Babel. Et puis, en 38 jours, il a parcouru plus de 900 kilomètres à cheval en étape de nuit et du matin, là, départ vers minuit. Cause de chaleur, puis cette longue marche au désert lui inspire plus tard les lignes suivantes. La rude vie du désert, avec ses risques perpétuels, est un noviciat de pauvreté qui prédispose la race arabe à une manière d'aimer paroxystique, fort dissociable, assez anticommunautaire, où la mort plane comme un péril constant et comme le terme désiré. Le désert n'a pas de distraction et d'ersatz pouvant le distraire, l'arabe, de l'image de beauté qui flambe dans son souvenir solitaire. Et s'il prie sa prière de monothéisme calciné, ne peut que hâter sa mort. Alors, c'est à Kout que débutent les événements dramatiques entourant sa conversion. Sur les circonstances de sa conversion, l'événement central de sa vie, là, Louis Massignon a longtemps gardé le silence. Ce n'est que 7 ans avant sa mort, en réponse à l'enquête d'un journal étudiant sur l'idée de Dieu, qui nous a donné le premier texte publié. Ça s'intitule « La visitation de l'étranger », si vous voulez, la visitation de Dieu. « L'étranger, dit-il, écrit-il, qui m'a visité un soir de mai sur le Tigre, devant le Tac, là, sur le Tigre, le fleuve, dans la cabine de ma prison, et la corde serrée après 2 essais d'évasion est entrée, toute porte close. L'étranger a mis feu dans mon cœur, que mon couteau avait manqué parce qu'il avait essayé de se tuer, cautérisant mon désespoir qu'il fendait. Aucun nom alors ne subsista dans ma mémoire, pas même le mien, qui put lui être crié pour me délivrer de son stratagème à cet étranger et m'évader de son piège. Alors il est pris au piège par Dieu. Par un renversement des valeurs, écrit-il, il a transmué ma tranquillité relative de possédant en misère de pauvresse. Ce quelqu'un, comme il l'appelle, dont la beauté rend jaloux les anges, est venu au petit jour et il a regardé dans mon cœur. Il pleurait, et je pleurais, jusqu'à la venue de l'aube, puis il m'a demandé, de nous deux, dit, qui est l'amant? Alors, toute sa vie, la pensée et l'action de Louis Massignon ont été changées par cette visitation de l'étranger, par la conversion qui a suivi, et par le souvenir de l'hospitalité sacrée musulmane à laquelle il pense avoir dû la vie. Et ce long voyage dans le désert l'a beaucoup éprouvé physiquement, ainsi que les membres de sa caravane. Alors à Kout, où c'est survenu, à Kout El Amara, Louis Massignon, après avoir installé ses tentes sur le bord du Tigre, manque de se noyer en se baignant dans ce fleuve et rentré au campement. Il a une vive altercation avec son domestique Véli, à la suite de quoi celui-ci s'enfuit. Il le vole, il apporte la bourse, et Louis Massignon porte plainte contre lui auprès du Kaïmakam de Kout, qui le fera arrêter et incarcérer. Et puis, sans argent liquide, il se prend pris au piège, ce pauvre Massignon. Hein. Pour avoir l'argent de son passage sur le bateau de Bagdad, Massignon est réduit à leur vendre à très bas prix 6 fusils, et il comprend que ses domestiques emprisonnés l'avaient copieusement calomnié pour se dédouaner. Et le lendemain, 1er mai 1908, eh bien, Massignon renvoie sa caravane par terre. Il s'embarque seul européen sur un vapeur turc qui s'appelle Bourranier pour Bagdad. Et il n'a qu'un lit de camp à peine isolé par un rideau. Puis dans le salon des premières classes, il est couché là. Puis pendant la sieste, il entend toutes les conversations de ses officiers et leur discussion de joueurs de cartes. Puis un officier vient lui dire à l'oreille, avec menace de mort pour la fin de la nuit, qu'il savait qu'il se déguisait sous un faux nom et qu'il était un espion. Et voilà que sa vie est en danger. Alors, Louis Massignon est consterné devant la méchanceté puis la haine de son domestique, qui l'a trahi, qui prétend qu'il est un espion, c'est ce qu'on lui dit. Il essaie de se disculper auprès des passagers de première classe, puis des passagers de pont aussi, puis en répétant qu'il n'est pas un espion, qu'il est un archéologue. Puis il parle de Halage, le grand mystique soufi. Et la nuit du 1er au 2 mai, seul, sans amis à bord, il sent que sa liberté et sa vie sont menacées, alors il essaie de prier en arabe. Lui qui est agnostique, il dit en arabe, « Ô Dieu, aide ma faiblesse. » Il entend dire qu'on allait le tuer à l'aube comme espion et qu'un chrétien devait se tuer plutôt que de subir pareille honte, hein, car on opérait une mutilation, je n'ai pas besoin de spécifier. Le 2 mai, il lui est interdit de quitter son lit. Comme le bateau a échoué, le soir, près de la rive, il cherche à s'évader. Il bouscule les passagers du pont, mais il est repris. Il est durement lié avec des cordes solides qui le blessent profondément au bras. On le dépose sur un divan dans la cabine close du capitaine, qui a quand même pitié de lui. La nuit du 2 au 3 mai, il fait un retour douloureux sur lui-même. Voici l'aboutissement, après des années d'amoralisme, dit-il, de l'avarice de la science et de ses plaisirs. Il se sent au creux de son amoralisme. Et se souvenant des réflexions entendues la nuit précédente, il décide de se suicider. Et c'est en plein de ses liens trop serrés, il obtient d'être délié, puis il essaie de s'enfoncer dans le cœur, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus insinué, s'enfoncer dans le cœur son poignard suédois. Il l'avait dissimulé dans sa longue ceinture de flanelle, mais il se manque, ne se faisant qu'une blessure légère. On se moque alors de lui. On le traite de lâche. Il touche alors le fond du désespoir. Et peu après, tout était dépassé. C'est là qu'arrive la visitation de l'étranger, la présence de Dieu juge. Dès le retour de Massignon à Bagdad, ses amis arabes, tout comme le consul de France, furent consternés, atterrés par les accusations absolument injustifiées, sans fondement, qui frappaient un ami, puis un ressortissant français. Alors, on décide qu'il fallait le renvoyer chez lui pour se faire soigner. Il y a un rapport d'un médecin qui lui fournit une occasion inespérée pour tirer Louis Massignon de cette situation critique, hein, en le faisant rappeler d'urgence par les autorités françaises. Et Louis Massignon, avec tous ses équipages, quitte Bagdad le 4 juin au soir en compagnie du père Anastase, un carme, qui aura une grande influence sur lui. Il y a un médecin aussi, le docteur Iskenderian, et un domestique. Il remonte le cours de l'Euphrate. À Meskenis, son escorte l'abandonne. Peu après, un détachement militaire lui barre la route. Mais heureusement, il finit par arriver le 23 juin à Alep, en Syrie. Et le soir du 24 juin, sensation déchirante, soudaine, de la présence de Dieu, non plus juge, mais père. Et c'est la fête de Saint-Jean-Baptiste, hein? Vous remarquez. Hein? Il sent une miséricorde débordante qui l'inonde, lui, l'enfant prodigue. Il prie toute la nuit, pour la première fois après 5 années de sécheresse de cœur et d'agnosticisme. Le 25 juin, départ en train pour Beyrouth, un peu avant Hama, il ressent de nouveau le choc du surnaturel. Il ne peut plus prononcer un mot. Il est comme conscient de son humilité. Mais il est attentif. Il a alors l'intuition d'un effort de traction coordonné à travers le monde entier vers Dieu. Une perception de la mise en marche de l'Église. Il a une vision immense, hein, et il voit le père Anastase, le carme, qui somnole sur sa banquette et il lui demande de se confesser. Celui-ci refuse parce que ça ne se fait pas dans un train. Il entend heureusement sa confession à Baalbek. Êtes-vous déjà allé à Baalbek? C'est fantastique. Et là, il revient en France par Beyrouth le 29 juin pour Saïd, Marseille, bon, en 1908. C'est dans son journal intime qui est inédit, comme au travers de sa correspondance avec le père Anastase, qu'on peut soupçonner ce qui s'est passé durant son voyage de retour de Bagdad à Beyrouth. Il lui écrira « Vous avez été, mon père, un jour sur mon chemin comme l'archange Raphaël sur le chemin du jeune Tobie. Vous, le prêtre, qui m'avez réconcilié avec l'Église. » Oui, c'est avec les prêtres qu'on se réconcilie avec l'Église, en se confessant. Mais ailleurs, il dit, c'est grâce à vous, mon père, qu'il a pu à l'amour éternel d'incendier un cœur tout souillé là-bas entre Homs et Baalbek. Votre absolution sacerdotale, point de départ de cette vie nouvelle où j'essaie de réparer ma vie passée. Il y a 5 ans, jour pour jour, nous étions ensemble à Alep. Après-demain, 25 juin, ce sera l'anniversaire du jour béni de ma conversion et de votre absolution sacramentelle. Cette date tombait cette année-là un vendredi, le vendredi du Sacré-Cœur de Jésus. Ce n'est plus aujourd'hui l'emprise brusque de la grâce qui frappe et enlève, fait jaillir des pleurs de remords ou de joie, c'est la grâce, encore, mais adouci, comme tamisé, tempéré, miséricordieuse, mais inexorable, plus auxiliatrice. Et à peine converti, bien Louis Massignon va chercher à faire partager sa découverte, à faire trouver Dieu à ses amis, à tous les hommes. Et sa démarche est singulière, c'est très particulier. Comme El Hallaj, le grand mystique soufi qui a été crucifié par les musulmans, il cherche à faire trouver Dieu par chacun, au fond de son âme, en entrant en otage dans la nécessité confessionnelle d'autrui. Comme lui, c'est au-delà de sa propre communauté, à toute l'humanité qu'il pense, pour lui communiquer, dit-il, ce curieux désir de Dieu patient et pudique. Il a compris que notre désir de Dieu, comme il dit, doit détruire en nous l'image misérable que nous nous en faisons pour rejoindre celui qui est venu parler aux hommes. Il va s'engager par des vœux secrets en esprit de substitution pour le salut de ses hôtes musulmans. Il s'engage à la chasteté. Cette offrande de substitution allait désormais orienter sa vie dans une direction ordonnée à l'universel. C'est fondé, cette offrande, sur l'amour universel du Christ. Il a compris qu'il n'y a plus pour lui d'autre voie que celle de l'amour, qui mène à la conformité croissante au Christ, par le dedans, évidemment. Et à la suite du père de Foucault, qu'il a connu, Jésus devient son modèle unique, l'exemple parfait, l'image du Père à imiter et à adorer. Essayons de comprendre ce qui s'est passé, ce qui a déterminé, comme dit, cette crise qui a précédé sa conversion. Deux éléments semblent intervenir simultanément. L'un purement physique, c'est le surmenage, les conséquences d'un long séjour au désert dans des conditions matérielles très précaires, j'en ai parlé. Et peut-être un début de paludisme aussi. Mais l'autre, c'est d'ordre moral. Il nous le dit lui-même, il dit 2 années de travail linguistique arabe et de crise morale. En Égypte, travail archéologique avec, en marge, escapades violentes, déguisées en fellah. Milieu dehors la loi, rage de comprendre et de conquérir à tout prix l'islam, chevauché au désert à la recherche d'une ruine. L'horreur sacrée de lui-même aussi, voilà, qui précède sa tentative de suicide, et bien relative à ce qu'il appellera d'ailleurs les aberrations de goût inhérentes à la luxure contre nature. Il avait sombré là-dedans. Contracté dans le seul désir de connaître, dit-il, de comprendre, de conquérir en se donnant. Quelques jours avant sa crise sur le bateau, il avoue être anxieux. Il soupçonne ses domestiques d'intriguer contre lui, puis il est donc bien question ici de crise. Et Louis Massignon craque physiquement et moralement. Et c'est en cet instant de suprême détresse que, dans un recueillement soudain, les yeux fermés devant un feu intérieur qui le juge et le brûle, une certitude d'une présence pure, ineffable, comme il dit, créatrice, suspendant sa sentence à la prière d'êtres invisibles, que Dieu le visite dans sa prison. Et, dans une lettre du 2 juillet 44, au lendemain d'un accident cardiaque, qui a failli lui coûter la vie, il fera cette prière qui rappelle son suicide manqué. Il dit à Dieu, « Reprends ce cœur. Tiens, ce cœur qui t'appartient. Comme au jour du coup de couteau dévié qui t'a touché en me manquant. » Il avait essayé de se suicider avec son couteau suédois. C'est Dieu qui est frappé au cœur par cette détresse. Et Dieu le délivre des liens de ses passions malsaines et le libère de la prison de son agnosticisme. Et alors, à une suffisance hautaine fait place l'indigence de la pauvresse. Et aujourd'hui, il est question de Louis Massignon, un nom souvent très connu par bien des gens, mais les gens ne le connaissent pas vraiment. C'est pas facile d'avoir des renseignements précis et authentiques à son sujet. J'essaie de vous les donner aujourd'hui grâce à un ouvrage important paru en 1987 qui s'appelle « L'hospitalité sacrée », paru chez Nouvelle Cité à Paris, les éditions Nouvelle Cité. Vous pouvez trouver ça dans toutes les bibliothèques, les librairies, particulièrement dans les librairies religieuses, car Louis Massignon est un penseur religieux, comme vous voyez jusqu'ici, on est au sein d'une conversion, hein? Et ce jeune savant qui est Louis Massignon, c'est un intrépide, hein? c'est un homme fier de lui. Il est fier de son savoir aussi. Et ça va pas contre la religion que d'avoir de la fierté. Il est fier de son courage. Je crois que le pape est fier de ce qu'il Dieu accomplit en lui. Il n'a sans doute rien à attendre. Cependant, au moment de sa conversion, d'un inconnu hypothétique, il a des doutes. Cette longue marche au désert, à la recherche de vestiges muets, témoins pétrifiés de civilisations disparues, ça conduit Massignon, notre explorateur, fourbu, là, comme beaucoup d'autres avant lui, sur un chemin bien étrange. Ça conduit Louis Massignon à la rencontre d'un inconnu, celui-là même dont la beauté rendit jaloux les anges, comme l'a proclamé le grand mystique soufi musulman Rumi, dont je vous ai parlé le 15 novembre 1996. Je vous donne le numéro, si vous voulez la cassette, numéro 339. J'avais déjà fait une émission sur Rumi aussi à la télévision de Radio-Canada. C'est donc dans une suprême détresse physique et morale que Louis Massignon reçoit cette visitation sacrée dont il a été question, la visitation d'un hôte sans visage, comme il dit si bien. L'étranger se manifeste comme l'hôte divin. On dit souvent ça dans le catholicisme, dans la foi chrétienne. L'hôte divin, celui qui nous habite, dont la présence brûle et fait mourir, mais d'une mort d'amour, comme dit Massignon, d'une mort d'amour qui aussi ressuscite. Ce sont ces mots. Il a le sens de la parole mystique. Il outrepasse déjà ici le seuil de la suprême déréliction, comme on dit, pour trouver l'amour. Et dans un acte d'abandon total, comme quelqu'un qui est devenu aveugle subitement, là, à cause d'une lumière trop brillante, trop fulgurante, il se laisse introduire dans le mystère de l'amour miséricordieux, de l'hôte sans visage. En formulant la veille de cette illumination sa première tentative de prière en arabe, « Allah, Allah, Asadu Ufi », ô Dieu, viens en aide à ma faiblesse, que je vous ai donnée tout à l'heure. Il semble qu'il a déjà ressenti, pour en souffrir presque dans le silence, la jalousie déchirante de Dieu. Ce sont encore ces mots, hein? La jalousie déchirante de Dieu. Car c'est un Dieu jaloux, son amour est immense, et il nous aime tellement. La détresse dans laquelle sa crise morale l'a plongé depuis plusieurs années, sa fatigue physique, sa maladie soudaine aussi, l'ont préparé à la naissance en lui du Fiat, comme la Vierge, Marie. Dans ce désert de l'âme, devant l'abîme du désespoir qui l'envahit, lui, qui est une épave humaine au fond, se trouve subitement face à cette visitation de Dieu, qui l'interpelle et ne le juge pas encore. C'était dans la nuit du 7 au 8 mai, à Bagdad, écrit-il. Vers les premières heures de l'aube, au cœur de cette détresse qui n'a pas de nom, il éprouve la solennité ineffable du choix qui lui est demandé. À Alep, il se sent envahi par une réalité sublime. Il goûte au don des larmes. Les larmes qui coulent sans cesse, tout doucement, et qui ne s'arrêtent plus. Ça peut durer une demi-heure, une heure, deux heures. Il passe la nuit anéanti en prière, la face contre terre. L'inconnu se découvre comme celui qui est père. Et en arrivant à Baalbek, il se sent à nouveau subjugué, conquis par quelque chose qui le dépasse. Il a de nouveau la sensation d'une réalité ineffable. Il est mis en demeure. Il doit faire un choix, le choix de cette vérité qui se découvre à lui, Jésus, l'Église. Nouveau moment d'agonie, puis ravissement et paix. Après s'être confessé, hein, et avoir assisté à la messe, À Beyrouth, il fait son chemin de croix dans une exaltation sans doute excessive, mais combien compréhensible pour un jeune converti. Il est dans la vingtaine. Enfin, à côté de ces intercesseurs invisibles dont il nous a parlé, l'attitude de ses amis arabes fut sans aucun doute déterminante dans le processus de son retour à Dieu. Il avait ressenti toute la chaleur puis l'authenticité de cette hospitalité arabe, non seulement au premier jour de son séjour à Bagdad, mais aussi et surtout au moment de son hospitalisation. Disons pour conclure que c'est donc au cours de cette mission archéologique en Mésopotamie, donc en Irak, si vous voulez, au printemps 1908, au plus profond d'une détresse physique là, et morale, en tête-à-tête avec le néant d'une mort entrevue, failli suicider, et le dégoût d'une vie gâchée, que Louis Massignon est blessé au vif par la grâce qui purifie, qui guérit. Et changeant résolument de cap, il oriente désormais sa vie dans la recherche de l'absolu. La vie, c'est ça, c'est la recherche de l'absolu. Cette longue marche va le conduire à un expatriement spirituel qui trouve son fondement, où il l'écrit lui-même, dans l'exercice de l'hospitalité envers ce pauvre, cet expatrié par excellence, Dieu, qui se cache sous l'aspect du plus malheureux de nos hôtes étrangers. Oui, Dieu est caché dans les pauvres et les abandonnés. Qu'il faut adopter, qu'il faut aimer, qu'il faut nourrir, il faut loger, il faut habiller. Relisons cette lettre du 26 février 1938. Il est très vrai que je suis croyant, profondément chrétien, catholique. Il est non moins vrai que je suis redevenu croyant il y a 30 ans, après 5 années d'incrédulité. C'est de, des amis musulmans de Bagdad, les Aloussis, que je le dois. D'où la reconnaissance profonde que je garde à l'islam et que je lui témoigne dans tous mes travaux scientifiques. Il connaît l'origine de l'islam, qui s'est répandu par le djihad en 20 ans, dans des guerres de conquête terribles. Il sait, il pardonne, il regarde à l'intérieur. Ainsi, comme le père de Foucault, dont il se veut le premier héritier spirituel, c'est au contact des musulmans que Louis Massignon a retrouvé le sens de la transcendance. C'est grâce à ses intercesseurs chrétiens, là, sa mère, Huysmans, Charles de Foucault, les intercesseurs musulmans aussi, El Alaj, les Aloussis, ses amis, qu'il a retrouvé la foi au Christ Jésus, fils de Marie, Verbe de Dieu incarné. Et rentré en France, convalescent, Louis Massignon rédige son rapport de mission et il continue à travailler sa thèse sur El Alaj. Je vous rappelle que j'ai fait une émission le 27 mars 98, c'est le numéro 626, sur ce très, très, très grand mystique El Alaj. C'est à cette époque que débute sa correspondance avec Paul Claudel, qui sera pour lui un confident et un ami. Et Louis Massignon reprend également contact avec le père de Foucault, auquel il avait envoyé son livre sur le Maroc, là, vous savez, en 1905. Parce que le père de Foucault connaissait bien le Maroc aussi. Dans une lettre du 8 février 1909, le père de Foucault, d'ailleurs, lui écrit « Cher frère, vos lettres me font bénir Dieu, me font rendre grâce. Je prie pour vous, l'amant éternel. » De voyage à Paris, le père de Foucault rencontre Louis Massignon. Il l'amène prier au Sacré-Cœur de Montmartre dans la nuit du 21 au 22 février 1909. Charles de Foucault devient ainsi comme un directeur spirituel de Louis Massignon. Mais au-delà de cette relation s'établit entre eux deux une amitié profonde et durable. Et Charles de Foucault, qui a déjà 52 ans, il pressent Massignon, qui n'en a que 27, non seulement un disciple, mais celui qui pourrait peut-être un jour le rejoindre et le remplacer. Mais ça ne se fera pas. Le 26 décembre 1910, Louis Massignon, qui était en France, écrit à son ami Claudel sa nostalgie du désert. Il dit « Je pense, quand mes livres seront achevés, aller éclaircir mes hésitations à sa grande lumière dans le Hogar, auprès du père de Foucault, qui m'attend un peu, je crois. » Mais Louis Massignon n'arrive pas à se décider. Il traverse à nouveau une crise profonde et il hésite. C'est le 11 décembre 1912 qu'il rencontre au Caire pour la première fois une jeune fille égyptienne chrétienne nommée Marie Cahill, dont je vous ai parlé. À l'occasion de la maladie d'un de ses amis communs, de leurs amis communs plutôt, Luis de Cuadra, un Espagnol, Louis Massignon demande à Marie Cahill non seulement de prier pour sa guérison, mais d'offrir sa vie pour le salut de son âme à Luis de Cuadra, parce qu'il est devenu musulman. Et bien que très réticent, elle finit par accepter, mais Luis de Cuadra guérira, mais restera musulman. Et chose étrange, il se suicidera en prison à Valence, en Espagne, le 12 août 1931. Triste histoire. Et bien qu'aspirant toujours au désert, puis à y vivre en ermite, hein, le 6 septembre 1913, priant Dieu à Dulmen, sur la tombe d'Anne-Catherine Emmerich, dont je vous parlerai bientôt, eh bien Louis Massignon se décide à penser au mariage. Et ce n'est que le matin même de ses fiançailles, le 15 octobre 1913, qu'il demande au prêtre chargé de sa direction spirituelle de le relever de son vœu de chasteté, et Louis Massignon épouse sa cousine, Marcelle d'Ancert-Testelin. Le 27 janvier 1914, ils partent alors en voyage de noces au Sahara, parce qu'ils désirent placer leur union sous la bénédiction du père de Foucault. Au début de la Grande Guerre, Louis Massignon est mobilisé comme officier dans l'armée d'Orient. Et c'est en Macédoine, dont on a beaucoup parlé depuis quelques années, alors qu'il a décidé de passer volontairement dans la troupe, là, qu'il apprend, sur le bord de sa tranchée, la mort du frère Charles de Foucault, survenu à Taman Rasset le 1er décembre 1916. Je vous en parlerai dans un mois. Et c'est en ce jour de sa mort que Charles de Foucault écrivit sa dernière lettre à Louis Massignon. Durant cette guerre de 14-18, Louis Massignon écrit presque journellement à sa femme. La guerre terminée, Massignon est nommé en 1919 comme professeur suppléant au Collège de France. Le 30 mai 26, Louis Massignon devient titulaire d'une chaire au Collège de France. Il va enseigner là jusqu'en 1954. Devenu tertiaire franciscain en 1932 sous le nom d'Abraham, il a une grande dévotion pour Abraham et pour Saint-François. Dans une lettre d'octobre 34, il écrit « Au début de cette année, en Orient, j'ai compris plus clairement que jamais que la vieillesse n'est pas l'âge de l'anéantissement, mais celui de la consommation de tous les saints désirs et de toutes les grâces entrevues. » À Paris, au Collège de France, Louis Massignon se distingue par une prodigieuse érudition universelle. Son activité intellectuelle semble ne pas avoir de limites. Il a fondé en 1929 l'Institut des études islamiques, puis il fonde des choses au Caire, comme l'Institut d'Art Es-Salam, etc., etc. D'une activité admirable. Et le 5 septembre 1949, il écrit à un prêtre ami, « Mon directeur spirituel m'a demandé de vous consulter sur le projet personnel que vous savez. » Pensez-y. Et dès 1908, après sa conversion, Louis Massignon s'est cru appelé au sacerdoce. Le 8 septembre 1909, le père de Foucault lui-même l'a invité. Alors, très proche de la communauté grecque-catholique depuis 1934, Louis Massignon obtient du pape Pie XII l'indulte pour passer le 5 février 1949 dans le rite grec-catholique melkite. Il se veut arabe chrétien par adoption pour participer de l'intérieur à la vie d'église de ces chrétientés arabes. C'est pour lui comme le corollaire de son don à l'islam à travers l'église melkite catholique. À la fin de décembre 1949, Louis Massignon écrit à Monseigneur Medawar, j'ai 66 ans passés, et à cet âge, je comprends que la messe est une anticipation par amour avec Jésus de la mort que nous désirons souffrir pour le salut des âmes. C'est aussi, j'ajoute, une anticipation de la résurrection qui nous attend dès ici-bas, car avec lui, nous ressuscitons. Louis Massignon, je continue, se sent une vocation sacerdotale dans le sens d'un ministère d'intercession rédemptrice. S'offrir à Dieu avec le Christ pour, en avant, réconcilier tous ses frères avec Dieu. C'est ainsi qu'il voit se réaliser de façon surprenante ce vœu le plus profond en recevant le sacrement du sacerdoce dans le plus grand secret, le 29 janvier 1950, au Caire, en l'église grecque-melkite Sainte-Marie de la Paix, des mains de Mgr Kamel Medawar, auquel il avait écrit tout à l'heure, et en présence de Marie Cahill. Dans les églises d'Orient, même catholiques, les hommes mariés peuvent être ordonnés. Hein? Vous savez ça. Hein? C'est le cas de presque tous les prêtres du village, d'ailleurs. Et cette ordination suscite une vive émotion à Rome. Le patriarche des Grecs Melkites, Maximos IV, s'en explique dans une lettre à la congrégation des églises orientales à Rome. Le ministère qui s'occupe de toutes ces églises unies à Rome. Vous savez qu'il y a dans l'église catholique 21 églises unies ensemble. La plupart sont de rites orientaux. Il écrit, Maximos IV, « Du fait de la personnalité exceptionnelle de M. Massignon, par là, nous avons réalisé de façon posthume le désir de Charles de Foucault qu'il avait exprimé à M. Massignon de le voir entrer dans le sacerdoce. Pour M. Louis Massignon, cette ordination est la consommation de son sacrifice. » Et conformément donc au désir des autorités ecclésiastiques, Louis Massignon célébrera toujours la Sainte Liturgie en privé, en arabe, dans le rite byzantin. Ce sacerdoce ministériel est véritablement pour Louis Massignon comme la consommation de sa vocation à la compassion et à l'offrant de sa vie en rédemption pour l'islam. Est-ce que nous prions vraiment pour les musulmans? Pensons-y. Il prie aussi pour les plus malheureux des pécheurs, pour les exclus. Et de son côté, Louis Massignon écrit à son patriarche, Maximos IV, le 24 avril 1956, « Pour moi, je ne désire pas manquer à l'appel de l'amour, qui est aussi l'appel de la mort. Là où est mon cœur, là où j'ai trouvé, et où, Dieu aidant, je dois consommer ma vocation en désert arabe. » 2 mois avant sa mort, il lui écrit encore, le 23 août 1962, « Je compte sur votre intercession pour m'offrir nu et dénué de tout, comme le maître, pour mourir. » C'est Louis Gardet dans Présence de Louis Massignon qui écrit « Ce que Louis Massignon attend du sacerdoce, c'est donc une conformité au Christ plus totale, une vie de totale compassion au sens le plus fort du terme et de substitution. Le sacerdoce reçu et vécu par Louis Massignon se situe dans la ligne même de sa vocation personnelle, dit-il, il en est comme l'accomplissement, faut-il ajouter, un nécessaire accomplissement. » Et il ajoute enfin, « Je ne crois pas exagérer de dire que Louis Massignon n'a pu répondre totalement à l'appel de Dieu sans le caractère sacerdotal, en vue de ce parachèvement de l'incarnation rédemptrice qu'il appelle Badalia. » Un prêtre doit rester transsubstantiellement uni à la passion unique du crucifié, avant toute action de témoignage à la parole apostolique, dit Louis Massignon. Il avait une grande dévotion à la Vierge Marie et parmi tous ceux et celles qui ont eu une profonde influence sur Louis Massignon, on peut dire qu'il convient de placer donner une place à part à celle qui est, comme il dit, la grande après Dieu. C'est le fiat de Marie qui a fait sortir le Fils de la clôture de l'éternité, dit-il. C'est elle qui, à l'Annonciation, nous a conçus et engendrés saints avec lui. Dans ses nombreux pèlerinages au sanctuaire de la Vierge, 2 ont particulièrement retenu son attention, Éphèse et la Salette. Éphèse, c'est là que Louis Massignon a médité et approfondi la bouleversante vérité des paroles de Jésus en croix à sa mère. « Femme, voilà ton fils. » Et c'est à Éphèse, en ce lieu d'exil où la Vierge était retiré avec saint Jean, que la première stigmatisée du calvaire, écrit-il, vécue de la méditation de la croix, de l'évocation de l'amour suprême qui enivre jusqu'à la mort, Éphèse, lieu présumé de l'Assomption. Il termine en disant, je crois que c'est à Éphèse qu'elle touchera non seulement les musulmans, mais les juifs. Le 24 décembre 1911, Louis Massignon, redevenu chrétien, monte en pèlerinage à la Salette pour la première fois, cherchant sa voie vers Dieu. Il avait aussi une grande dévotion à Notre-Dame du Voile, la Vierge de Pokrov, dont l'icône est des plus répandues et vénérées en Russie. Louis Massignon a montré encore que Jésus et Marie sont les 2 seules créatures pures, sans tache, immaculée, reconnue comme telle par le Coran. Ô Marie, Vierge de la Transcendance, Marie, Mère de Dieu, orante exaucée, intercestrice parmi les orantes d'Israël, je vis dans ta sereine douleur, écrit Louis Massignon, ô Vierge du Stabat. Je sais que la dure voie du sacrifice est la vraie et la seule voie pour moi. Et il ajoute, livrons-nous à Dieu, comme Marie notre mère, debout devant Jésus, en agonie. Et c'est dans cet abandon, par-delà la mort, dans cette aube divine qui monte en elle, écrit Louis Massignon, que Louis Massignon est entré dans la suprême extase, comme il l'appelle, la mort, le 31 octobre 1962, aux premières vêpres de la fête de la Toussaint, emporté par une crise cardiaque. Quelques jours après, Mgr Pierre Kamel Medawar, l'évêque qui l'avait ordonné prêtre, écrivait « Il était si souvent offert à Dieu, il s'était si souvent offert à Dieu pour toutes les nobles causes, surtout pour la paix entre chrétienté et islam, pour la liberté des peuples, pour l'union des chrétiens. Il avait si souvent uni le sacrifice de sa personne au sacrifice unique de notre Seigneur Jésus-Christ dans la divine liturgie, que son retour au Père maintenant paraît comme la consommation naturelle de son sacrifice, l'acceptation définitive par Dieu de son holocauste généreux et persévérant. »